vrai.
Oh, mais non, c'est faux.
Évidemment que c'est vrai.
C'est faux, c'est vrai. C'est faux et c'est pure calomnie.
Ah, c'est pas faux.
Salut Mélissa.
Salut Emma.
Je te laisse te présenter la première.
Oui, alors donc moi c'est Mélissa Le Pourreau et c'est moi qui suis derrière le podcast Science ou Fiction depuis son lancement en mai 2022.
Et moi du coup c'est Emma Hollen et je suis responsable audio chez Futura depuis 2020, depuis septembre 2020. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce n'est pas votre épisode de Science ou Fiction habituel. Bah c'est parce que ça fait un petit moment que Science ou Fiction existe et qu'on en est au 100e épisode. Du coup, pour changer un peu, on s'est dit qu'on allait on allait vous présenter Mélissa, parce que ça fait quand même un moment que vous l'avez dans les oreilles, que vous la remerciez en commentaire, que vous lui dites qu'elle est ultra géniale et que ce serait quand même cool que vous puissiez la connaître un peu mieux. Et puis, on a décidé de parler un petit peu de science ou fiction et de ce que ça implique aujourd'hui de debunker des idées reçues, parce que vous allez voir que c'est un travail qui n'est pas si simple que ça. On va commencer tout simple. T'es qui et tu viens d'où, Mélissa ?
Je viens d'où ? Eh ben moi, je viens à la base d'une licence en biologie. J'ai commencé en sciences, en fait, après le bac. Et finalement, au bout de 3 ans, je me suis aperçue que c'était pas derrière la paillasse au labo que j'étais la plus à l'aise. Moi, en fait, j'aimais surtout écrire et vulgariser ce qu'on apprenait en licence et tous ces concepts scientifiques qu'on pouvait voir. Et donc, c'est ce qui m'a amenée à partir en école de journalisme en 2020, donc après cette licence. Et du coup, dans cette formation, j'ai eu la chance de pouvoir faire une alternance, donc chez Futura. Et c'était vraiment une chance parce que je voulais être journaliste scientifique, donc c'était complètement dans le thème.
Et du coup, t'es tombée sur moi.
Et du coup, je suis tombée sur toi.
Exactement. T'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire pire, mais t'aurais pu faire mieux. Bon, ça s'est super bien passé.
Ouais.
T'as appris plein de trucs. Moi, j'étais épatée de tout ce que t'as appris, en fait, au cours de cette alternance. Je recommande des alternances à tout le monde. C'est franchement super cool. Ça demande beaucoup de taf parce que du coup, bah, tu mènes tes études en parallèle et pendant que ton employeur te demande de faire un taf de malade, bah, toi, tu prépares tes examens et tu fais tes devoirs le soir. Mais ça a été hyper enrichissant, j'imagine.
Ouais, carrément. C'est vraiment, pour moi, le meilleur moyen de se lancer dans la vie professionnelle petit à petit, sans faire un énorme plouf dans le grand bassin d'un coup. Donc, c'est assez confortable. Et puis, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une alternance qui était vraiment géniale. Donc ouais, non, c'est idéal.
Et tu parlais justement de se lancer dans la vie professionnelle et c'est vrai que cette alternance, elle a été, je sais pas si ça a été un cas rare, mais en tout cas, tu as eu la chance de pouvoir être sur science-fiction dès ses lancements, de devenir sa voix, de devenir sa plume. Et du coup, ton alternance est finie depuis un petit bout de temps déjà, mais tu continues de travailler avec nous sur science-fiction et tu restes aujourd'hui la voix phare de science-fiction, ce qui
oui.
est super cool.
Mais oui, effectivement, mon alternance du coup s'est terminée en septembre 2022. Si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, après, j'ai pu continuer sur Science ou Fiction, ce qui est génial, puisque c'est vraiment un podcast que j'adore porter, en tout cas.
C'est un podcast auquel on a pas mal réfléchi. On avait déjà un podcast d'histoire, on avait un podcast sur l'intelligence animale, un autre sur l'actu. Et c'est vrai que moi, je m'étais demandé comment est-ce qu'on met à profit ce côté science sans pour autant faire paniquer les gens en mode « Non mais moi, les sciences, j'y connais rien, j'étais nulle en maths en troisième, j'ai pas envie d'écouter ça. » Et c'est vrai que moi, ce que je trouvais qui manquait, c'était un podcast de debunking. On était en plein dans la période fake news et comment démêler le vrai du faux. Et du coup, on a décidé de lancer un podcast de debunking et de l'appeler Science ou Fiction. On a une super illustration qui a été faite par Nathan St. John, qui est un super illustrateur, qui nous a fait une illustration, en gros, d'un astronaute sur la Lune. Et on voit dans le reflet de son casque une équipe en train de le filmer. Donc, c'est une référence à une théorie conspirationniste dont tu parles, d'ailleurs, dans ton épisode sur la Lune et est-ce qu'on y est allé.
Oui.
Parce que des personnes diraient qu'on n'est pas allé sur la Lune, mais que c'était un montage de Kubrick qui avait mis ça en scène.
Tout à fait.
Et du coup, bah, tu t'es lancé sur ce podcast qui est un mélange à la fois de culture G, de debunking, qui est très humoristique. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, t'étais la personne toute désignée pour ça. Il y a un ton vraiment super sympa dans science-fiction, hyper familier, très drôle et en même temps, voilà, qui reste scientifique, qui est très chouette. Et tout ça est ponctué de citations de cinéma. Est-ce que tu veux expliquer un peu comment ça se passe pour toi la production d'un épisode de A à Z ?
Ouais, alors, je vais commencer par toute une phase de documentation autour du sujet de la semaine. C'est ce qui est pour moi le plus long, parce qu'en fait, c'est le moment où déjà je débarque sur un sujet que je ne connais pas forcément et dont je ne parle pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc il faut un peu tout apprendre dessus, se documenter, faire attention à choisir les bonnes sources, et parfois c'est pas le plus simple,
Je sais que c'est quelque chose qui m'a pas mal posé problème au tout début. J'avais un peu du mal à savoir si telle ou telle source était fiable ou pas. Donc évidemment, c'est voilà, de la lecture d'articles, de la compréhension, et puis vient le temps de l'écriture, de poser les citations qui vont bien par-dessus, de voir comment je pourrais interpréter tout ça, parce qu'évidemment, pour passer de l'écriture à un ton plus oral, c'est une petite gymnastique d'esprit, mais bon, ça s'apprend. Et puis relecture, et puis enregistrement au micro.
Et alors pour la petite anecdote, il m'arrive assez régulièrement de devoir enregistrer sous la couette. Alors c'est pas parce que je suis une énorme flemmarde qui préfère travailler au lit, c'est vraiment parce qu'en fait ça va éviter que le son aille percuter les murs et donc que ça crée un énorme écho et qu'à l'oreille ce soit assez désagréable. Et ça évite aussi que dans mon enregistrement on entende tous les bruits parasites extérieurs du style une moto qui passe, quelqu'un qui crie dehors ou n'importe quel bruit en fait qu'on peut entendre dans une maison, un craquement ou n'importe quoi. Donc c'est vraiment pour la qualité du son, mais du coup c'est vrai que ça donne lieu à quand même des scènes assez improbables.
Parce qu'on peut le préciser, tu as fait ton alternance en télétravail.
Oui.
Ce qui est plutôt une chance, et c'est vrai que du coup tes podcasts ont toujours été produits chez toi. Et effectivement, quand on enregistre un podcast, à moins d'enregistrer dans un studio spécifiquement fait pour ça, bah, le son il a tendance à rebondir un petit peu partout sur les murs. Et du coup, on nous avait recommandé au tout début effectivement d'enregistrer sous une couette pour étouffer les sons autour de nous. Et il faut croire que bah, c'est une solution qui marche bien puisque tu la pratiques toujours.
Exactement. Et du coup, pour continuer sur les étapes, donc ensuite c'est le nettoyage de la piste son pour enlever tous les A, les E, les bafouilles, parce que je bafouille beaucoup et je me perds dans mon texte, ça m'arrive souvent. Et puis le montage final pour ajouter la musique, le jingle que vous connaissez, les citations, etc. Et après, la publication, évidemment.
Ce podcast aujourd'hui, il veut dire quoi pour toi? C'est quand même un projet que tu as fait pendant tes études, c'est quelque chose dont tu es fière, c'est quelque chose que tu dois continuer longtemps?
Oui, c'est quelque chose dont je suis fière, bon, c'est un peu un aboutissement. Je l'ai lancé en débutant franchement dans le journalisme et c'est quelque chose que je tiens toujours aujourd'hui. Et c'est un format que j'aime beaucoup parce qu'il me permet d'être assez libre en fait dans ma... Déjà dans ma façon de parler, dans ma façon d'écrire, sur les thèmes qu'on aborde. Et c'est vrai que j'y suis assez attachée puisque j'ai contribué à le lancer dès le début. Et je suis encore dedans et j'aimerais continuer autant que possible.
D'ailleurs, tu parlais du choix des sujets. Alors, on en discute beaucoup, toi et moi, mais on va le dire, tu as une base de fans qui est assez monumentale. C'est-à-dire que Science ou Fiction et Bête de Science sont les podcasts qui attirent le plus de commentaires. Et moi, je suis toujours... assez émue et hyper épatée de voir la bienveillance et l'entrain de notre communauté. Et vous nous suggérez, auditeurs et auditrices, beaucoup de sujets qu'on reprend du coup. Donc si votre sujet n'est pas encore passé, ne vous en faites pas, c'est qu'il est dans une très longue liste, parce que vous vous en rendez pas compte, mais on a dû nous suggérer au moins une cinquantaine ou une centaine de sujets depuis que le podcast a été lancé. Et voilà, on prend petit à petit le temps de debunker certains des sujets que vous nous envoyez. Je me souviens que les roues sentent mauvais, c'était quelque chose qu'on nous avait envoyé. Les gauchers meurent plus vite que les droitiers. Les filles sont nulles en maths. On en avait quelques-uns comme ça qui avaient été suggérés par vous. Et ça nous mène au sujet dont on voulait parler un peu plus en détail, qui est celui de comment est-ce qu'on recherche une information fiable aujourd'hui. Il ne fait pas bon être journaliste scientifique aujourd'hui, il ne fait pas bon être journaliste aujourd'hui de façon générale, mais il ne fait pas bon être journaliste scientifique parce qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent, et en tout cas quand on est journaliste novice, on a parfois tendance à se faire avoir et à se dire ben, « je vais aller regarder ce que dit National Geographic, je vais aller regarder ce que dit le Figaro Santé, je vais aller regarder... » Alors, ce n'est absolument pas pour décrier le travail qui est fait sur ces publications, hein. Elles font toutes un excellent travail, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on veut faire un travail de debunking, il faut aller chercher au plus près de la source pour être sûr que l'information n'a pas été mal comprise, déformée ou amplifiée sans avoir été vérifiée. Tu pourrais décrire un petit peu le cheminement en fait que tu as fait entre tes tout premiers épisodes et comment tu fais tes recherches maintenant, comment ça a évolué?
Bah, au début, alors c'est vrai que pour moi, comme je disais, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez difficile de savoir comment bien m'informer, comment le faire de manière efficace et de tirer la vraie info. Parce qu'en fait, c'est ce que tu disais, à force que l'info soit reprise et reprise, parfois elle peut être un peu déformée ou mal interprétée simplement par la personne qui la lit. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai un peu mis en place une certaine méthode où j'essaye de regarder qui est l'auteur de l'information, quel est l'objectif de l'auteur quand il explique ce qu'il a expliqué. Est-ce qu'il est là pour relater les faits ou est-ce qu'il est là pour donner son opinion, parce que c'est pas pareil. Quelle est la nature du site ? Est-ce que c'est un média ? Est-ce que c'est un site gouvernemental ou institutionnel ? Enfin, voilà. Parce que ça peut en dire long aussi sur la qualité de l'information. L'objectif du site, d'où vient l'info ? Quelle est la source première ? Est-ce que c'est ce site qui est la source ou est-ce qu'il y a une autre source et peut-être encore une autre source avant ? De quand date l'information ? Et est-ce que dans l'article que je suis en train de lire, je constate des incohérences ou des choses qui ne font pas sens ? L'important, c'est de croiser ses sources, parce que c'est pas parce qu'un article va vous raconter ce que vous voulez qu'il vous raconte que, en fait, il dit la vérité et que ça n'a pas été surinterprété. Donc, c'est bien de faire appel à plusieurs types d'articles et de les recroiser ensemble pour voir si l'information reste cohérente et à peu près la même, enfin, complètement la même, surtout. Et puis, dans mon cas, dans le cadre de podcasts à thématique scientifique, j'essaye d'aller aussi piocher dans des articles scientifiques qui ont été écrits du coup par des scientifiques directement.
C'est important d'aller voir ce que dit la presse en première intention. Je pense que c'est une bonne façon de commencer à défricher un peu le sujet, mais effectivement après il va falloir aller se plonger dans le dur, passer par des sites gouvernementaux comme tu le dis, des sites scientifiques, voire remonter à l'étude source, ce qui n'est pas toujours facile, hein. Il y a des études qui sont clairement velues, les études sont faites pour être le plus compréhensible possible, mais par un corps scientifique. Quand on est novice et qu'on n'est pas forcément initié à la mécanique des fluides ou à la théorie quantique, c'est pas toujours simple d'aller aborder un article comme ça de but en blanc pour essayer d'être sûr de ce qu'on dit.
Mais c'est très intéressant, c'est très challengeant évidemment, mais c'est vrai que c'est assez délicat parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, une info, une idée, ça se répand à la vitesse de la lumière. Et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les fake news fleurissent, donc c'est vrai qu'il faut franchement faire attention.
Je pense que tu le sais mieux que quiconque, puisque c'est vraiment le cœur de science ou fiction. Une idée, à partir du moment où elle est bien formulée, qu'elle soit vraie ou fausse, elle s'attache à notre cerveau. Et c'est très compliqué ensuite de s'en détacher. Et d'ailleurs, la psychologie le prouve. Hein, c'est plus difficile de se détacher d'une idée, même si elle est fausse, une fois qu'elle a été assimilée.
Oui, bah c'est ce que j'explique parfois sur certains épisodes. On a des rumeurs qui circulent, mais depuis les années... dans les années 1800, c'est énorme, et qui aujourd'hui ont besoin d'être débunkés.
Je pense, ça a été prouvé aussi, notre cerveau a besoin de simplicité pour s'expliquer le monde. On a peut-être un peu peur de la complexité. Souvent, ces histoires, elles servent à raconter quelque chose qui est simple et qui est facile à appréhender, mais le monde est beaucoup plus nuancé, parfois beaucoup plus complexe, et malheureusement, c'est toi qui vas faire les frais en essuyant les plâtres et en allant démêler justement le vrai du faux et en allant te plonger dans toutes les complexités qu'un sujet peut avoir.
Mais il faut bien le faire, à un moment.
Il faut bien le faire.
Il faut bien s'y plonger.
Si tu avais un conseil à donner à tes auditeurs et à tes auditrices pour bien te renseigner, genre quel serait le parcours idéal à suivre ?
Je pense que le parcours idéal à suivre... Alors, évidemment, j'ai pas la... Je veux dire, j'ai pas la science infuse, c'est marrant quand on parle d'un podcast scientifique. Mais je pense que la méthode que j'utilise pour la construction de mes podcasts, à savoir regarder qui est l'auteur, quel est le site, d'où vient l'info, et essayer de faire un peu ce travail de vérification et de fact-checking, c'est déjà un très bon point de départ. Et de faire attention aussi à tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux. Parfois, ça peut être tentant de croire à certaines choses, et puis en fait, on va creuser ne serait-ce qu'un tout petit peu dans les médias ou dans des sites un peu plus institutionnels, des articles scientifiques ou autres, et on se rend compte qu'en fait, c'est du grand n'importe quoi. Donc, il faut faire attention à ça. Par exemple, sur le cas des réseaux sociaux, il y a quelques temps, on avait eu l'exemple de Étienne Klein qui avait publié sur son compte Twitter, il me semble, une photo de ce qu'il avait décrit comme étant Proxima du Centaure, qui aurait été photographié par un télescope, le JWST. Et tout le monde y avait cru, sauf quelques sceptiques, peut-être un peu informés. Et en fait, il s'avère que c'était purement et simplement une tranche de salami qu'il avait pris en photo et qu'il avait décrit comme étant Proxima du Centaure. Et il avait en fait fait cette publication-là pour justement montrer qu'il faut bien faire attention à ce qu'on croise sur les réseaux sociaux et que parfois il faut aller gratter un petit peu plus loin pour vérifier si c'est bien ça ou si c'est pas ça du tout. Et en l'occurrence, c'était pas Proxima du Centaure.
Ce qui est compliqué, c'est quand on a vu l'image, on a retenu, puis on ne verra jamais le debunk. Ça, c'est une grosse frustration, je pense. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu une information et qui verront jamais l'information qui debunk derrière, parce que ce qui marche sur les réseaux sociaux comme dans les médias, c'est une histoire qui est fun à lire et pas une histoire qui dit « Ouais, mais en fait, non, c'est pas exactement ça. » Et moi, c'est ça que... Enfin, vraiment, j'ai envie de t'applaudir là-dessus, c'est que science-fiction, c'est 100% ça. C'est « Ouais, non, mais les mecs, vous emballez pas. En fait, c'est pas ça. Et je vais vous raconter. Et il y a plein de sciences derrière. Et vous en faites pas. Vous vous posez. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les équinoxes. C'est un peu douloureux, mais après, vous serez content. » Et ça marche. Et ça fait vraiment super plaisir de voir que les... on a tendance à dire « Ouais, les gens, c'est des moutons. Ouais, les gens, ils sont trop bêtes. » Mais en fait, non. On cherche tous et toutes à comprendre. On cherche tous et toutes à savoir. Et c'est à nous ensuite d'exiger de la part des médias et des plateformes qu'on consomme de faire preuve de plus de rigueur et de nous servir des choses qui sont vraies et belles, parce qu'il y a clairement de quoi faire dans le monde pour être ébloui sans aller inventer des histoires. Il y a plein de sites qui existent, hein, qui vous permettent d'aller vérifier la véracité d'une information, en particulier si elle est chaude. Il y a Snopes qui propose ça, et sinon il y a l'AFP qui a un service de debunking des images et des informations qui sont fausses, tout simplement. Du coup, si tu avais un mot de la fin pour tes auditeurs et tes auditrices, ce serait quoi?
Bah, je vous remercie d'être avec nous, tout simplement, et d'être au rendez-vous toutes les semaines depuis mai 2022, maintenant. Ça commence à faire un moment. C'est vraiment super touchant d'avoir autant de retours positifs, autant de suggestions pour des épisodes à venir, etc. Vraiment, c'est très appréciable et c'est très motivant pour la suite.
Vous n'hésiterez pas à nous dire ce que vous voudrez qu'on couvre dans l'interview de l'épisode 200, du coup.
Voilà, peut-être une autre facette des fake news. On verra bien.
Carrément, en espérant que ça ne se soit pas empiré d'ici là.
Ouais, je serais pas aussi optimiste.
En tout cas, merci beaucoup Mélissa, parce que c'est une super aventure qu'on partage ensemble. Et puis merci à toutes et à tous, parce qu'on pourrait pas rêver de meilleure communauté quand on lance un podcast.
C'est sûr. Et puis bah merci à toi et merci à Futura de me faire confiance sur ce podcast.
C'est un plaisir et un honneur. À la prochaine.
À la prochaine.